Rosny est né. Un autre monde. 1895. Je suis natif de la Gueldre. Notre patrimoine se réduit à quelques acres de bruyère et d'eau jaune. Des pins croissent sur la bordure qui frémissent avec un bruit de métal. La ferme n'a plus que de rares chambres habitables et meurt pierre à pierre dans la solitude. Nous sommes d'une vieille famille de pasteurs, jadis nombreuses, maintenant réduites à mes parents, ma sœur et moi-même. Ma destinée, assez lugubre au début, est devenue la plus belle que je connaisse. J'ai rencontré celui, avec une majuscule, qui m'a compris. Il enseignera ce que je suis seul à savoir parmi les hommes. Mais longtemps j'ai souffert, j'ai désespéré, en proie au doute, à la solitude d'âme, qui finit par ronger jusqu'aux certitudes absolues. Je vins au monde avec une organisation unique. Dès l'abord, je fus un sujet d'étonnement. Non que je parusse mal conformé, j'étais, m'a-t-on dit, plus gracieux de corps et de visage qu'on allait d'habitude en naissant. Mais j'avais le teint le plus extraordinaire, une espèce de violet pâle, très pâle mais très net. À la lueur des lampes, surtout des lampes à huile, cette nuance pâlissait encore, devenait d'un blanc étrange comme d'un lit submergé sous l'eau. C'est du moins la vision des autres hommes. Car moi-même, je me vois différemment, comme je vois différemment tous les objets de ce monde. À cette première particularité, sans joigner d'autres, qui se révélèrent plus tard. Quoique né avec les apparences de la santé, je grandis péniblement. J'étais maigre, je me plaignais sans cesse. À l'âge de 8 mois, on ne m'avait pas encore vu sourire. On désespéra bientôt de m'élever. Le médecin de Ward's Zartendam me déclara atteint de misère physiologique. Il n'y vit d'autre remède qu'une hygiène rigoureuse. Je n'en dépérissais pas moins. On s'attendait de jour en jour à me voir disparaître. Mon père, je crois, s'y était résigné, peu flatté dans son amour-propre hollandais d'ordre de régularité, par l'aspect bizarre de son enfant. Ma mère, au rebours, m'aimait en proportion même de ma bizarrerie, ayant fini par trouver aimable la teinte de ma peau. Les choses en étaient là, lorsqu'un événement bien simple me vint secourir, comme tout devait être anormal pour moi, cet événement se fut une cause de scandale et d'appréhension. Au départ d'une servante, on prit pour la remplacer une vigoureuse fille de la Frise, pleine d'ardeur au travail et d'honnêteté, mais encline à la boisson. Je fus confié à la merveille venue. Me voyant si débile, elle imagina de me donner en cachette un peu de bière et d'eau mêlée de chidam, remède, selon elle, souverain contre tous les maux. Le plus curieux, c'est que je ne tardais pas à reprendre des forces et que je montrais d'alors une prédilection extraordinaire pour les alcools. La bonne fille s'en réjouit secrètement, non sans goûter quelque plaisir à intriguer mes parents et le docteur. Mise au pied du mur, elle finit par dévoiler le mystère. Mon père entra dans une violente colère. Le docteur cria à la superstition et à l'ignorance. Des ordres sévères furent donnés aux servantes et on retira ma garde à la frisonne. Je recommençai à maigrir, à dépérir, jusqu'à ce que, n'écoutant que sa tendresse, ma mère m'eût remis au régime de la bière et du chidam. Et incontinent, je repris vigueur et vivacité. L'expérience était concluante. L'alcool se dévoilait indispensable à ma santé. Mon père en éprouva de l'humiliation. Le docteur se tira d'affaire en ordonnant des vins médicinaux, et depuis ma santé fut excellente. Ça ne suffit pas, faute de me prédire une carrière d'ivrognerie et de débauche. Peu après cet incident, une nouvelle anomalie frappa mon entourage. Mes yeux, que tout d'abord avaient paru normaux, devinrent étrangement opaques, prirent une apparence cornée, comme les élytres de certains coléoptères. Le docteur augura que je perdais la vue. Il avoua toutefois que le mal lui semblait absolument bizarre et tel qu'il ne lui avait jamais été donné d'en étudier de semblable. Bientôt la pupille se confondit tellement avec l'iris qu'il était impossible de les discerner l'un de l'autre. Je remarqua en outre que je pouvais regarder le soleil sans en paraître incommodé. À la vérité, je n'étais nullement aveugle, et même il fallut finir par avouer que j'y voyais fort convenablement. J'arrivais ainsi à l'âge de 3 ans. J'étais alors, selon l'opinion de notre voisinage, un petit monstre. La couleur violette de mon teint avait peu varié. Mes yeux étaient complètement opaques. Je parlais mal et avec une rapidité incroyable. J'étais adroit de mes mains et bien conformé pour tous les mouvements qui demandent plus de prestesse que de force. On ne niait pas que j'eusse été gracieux et joli si j'avais eu le teint naturel et les prunelles transparentes. Je montrais de l'intelligence, mais avec des lacunes que mon entourage n'approfondit pas. D'autant que, sauf ma mère et la frisonne, on ne m'aimait guère. J'étais pour les étrangers un objet de curiosité et pour mon père une mortification continuelle. Si d'ailleurs celui-ci avait conservé quelque espoir de me voir redevenir pareil aux autres hommes, le temps se chargea de le dissuader. Je devins de plus en plus étrange par mes goûts, par mes habitudes, par mes qualités. À 6 ans, je me nourrissais presque uniquement d'alcool, à peine si je prenais quelques bouchées de légumes et de fruits. Je grandissais prodigieusement vite. J'étais incroyablement maigre et léger. J'entends léger même au point de vue spécifique, ce qui est justement le contraire des maigres. Ainsi, je nageais, sans la moindre peine, je flottais comme une planche de peuplier. Ma tête s'enfonçait guère plus que le reste de mon corps. J'étais leste en proportion de cette légèreté. Je courais avec la rapidité d'un chevreuil. Je franchissais facilement des fossés et des obstacles que nul homme n'eût seulement essayé de franchir. En un clin d'œil, j'atteignais la cime d'un hêtre, ou ce qui surprenait encore plus, je sautais sur le toit de notre ferme. En revanche, le moindre fardeau m'excédait. Tout cela, en somme, n'était que des phénomènes indicatifs d'une nature spéciale qui n'eussent par eux-mêmes contribué qu'à me singulariser et à me faire mal venir. Aucun ne me classait en dehors de l'humanité. Sans doute, j'étais un monstre, mais certes pas autant que ceux qui naissent avec des cornes ou des oreilles de bête, une tête de veau ou de cheval, des nageoires, point d'yeux ou un œil supplémentaire, 4 bras, 4 jambes ou 100 bras ni jambes. Ma peau, malgré sa nuance surprenante, était bien près de n'être qu'une peau hâlée. Mes yeux n'avaient rien de répugnant, malgré leur opacité. Mon agilité extrême était une qualité. Mon besoin d'alcool pouvait passer pour un simple vice, une hérédité d'ivrogne. Les rustres, d'ailleurs, comme notre servante frisonne, n'y voyaient qu'une confirmation de leurs idées sur la force du chidam, une démonstration un peu vive de l'excellence de leur goût. Quant à la vitesse de ma parole, à sa volubilité, qu'il était impossible de suivre, cela semblait se confondre avec les défauts de prononciation, bredouillement, zézément, bégaiement, commun à tant de petits enfants. Je n'avais donc, à proprement dire, pas de caractère marqué de monstruosité, quoique l'ensemble fût extraordinaire. C'est que le plus curieux de ma nature échappait à mon entourage, car nul ne se rendait compte que ma vision différait étrangement de la vision normale. Si je voyais moins bien certaines choses que les autres, j'en voyais un grand nombre, plus grand nombre que personne ne voit. Cette différence se manifestait spécialement devant les couleurs. Tout ce qu'on nomme, des noms rouges, oranges, jaunes, verts, bleus, indigo, m'apparaissait d'un gris plus ou moins noirâtre, tandis que je percevais le violet et une série de couleurs au-delà des couleurs qui ne sont que nuit pour les hommes normaux. J'ai reconnu plus tard que je distingue aussi une quinzaine de couleurs aussi dissemblables que, par exemple, le jaune et le vert, avec bien entendu l'infini des dégradations. En second lieu, la transparence ne se manifeste pas à mon œil dans les conditions ordinaires. Je vois médiocrement à travers une vitre et à travers l'eau. Le vert est très coloré pour moi. L'eau l'est sensiblement, même sous une faible épaisseur. Beaucoup de cristaux dits diaphanes sont plus ou moins opaques au rebours. Un très grand nombre de corps dits opaques n'arrêtent pas ma vision. En général, je vois au travers des corps beaucoup plus fréquemment que vous. Et la translucidité, la transparence trouble, se présente si souvent que je puis dire qu'elle est pour moi, pour mon œil, la règle de la nature, tandis que l'opacité complète est l'exception. C'est ainsi que je discerne les objets à travers le bois, les feuilles, les pétales des fleurs, le fer magnétique, la houille, etc. Cependant, sous une épaisseur variable, ces corps deviennent un obstacle. Tel un gros arbre, un mètre d'eau en profondeur, un épais bloc de houille ou de quartz. L'or, le platine, le mercure sont noirs et opaques. La glace est noirâtre. L'air et la vapeur d'eau sont transparents et pourtant colorés, ainsi que certains échantillons d'acier, certaines argiles très pures. Les nuages ne m'empêchent pas d'apercevoir le soleil ni les étoiles. D'ailleurs, je distingue nettement les mêmes nuages suspendus dans l'atmosphère. Cette différence de ma vision avec celle des autres hommes était, comme je l'ai dit, très peu remarquée par mes proches. On croyait que je distinguais mal les couleurs, voilà tout. C'est une infirmité trop commune pour attirer beaucoup l'attention. Elle était sans conséquence pour les menus actes de ma vie, car je voyais les formes des objets de la même manière, et peut-être plus subtilement, que la majorité des hommes. La désignation d'un objet par sa couleur, lorsqu'il fallait le différencier d'un autre objet de même forme, ne m'embarrassait que s'ils étaient nouveaux. Si quelqu'un appelait bleu la couleur d'un gilet et rouge celle d'un autre, peu importait les couleurs réelles sous lesquelles ces gilets apparaissaient. Bleu et rouge devenaient des termes purement mnémoniques. D'après cela, vous pourriez croire qu'il y avait une manière d'accord entre mes couleurs et celles des autres, et qu'alors cela revenait au même que si j'avais vu leur couleur. Mais, comme je l'ai écrit déjà, le rouge, le vert, le jaune, le bleu, etc., quand ils sont purs, comme le sont les couleurs du prisme, je les perçois d'un gris plus ou moins noirâtre. Ce ne sont pas des couleurs pour moi. Dans la nature, où aucune couleur n'est simple, il n'est pas de même. Telle substance dite verte, par exemple, est pour moi d'une certaine couleur composée. Mais une autre substance dite verte, et qui est pour vous identiquement de la même nuance que la première, n'est plus du tout de la même couleur pour moi. Vous voyez donc que mon clavier de teinte n'a pas de correspondance avec le vôtre. Quand j'accepte d'appeler jaune à la fois du laiton et de l'or, c'est un peu comme si vous acceptiez de nommer rouge un bleuet aussi bien qu'un coquelicot. Si là s'était bornée la différence entre ma vision et la vision habituelle, ça aurait déjà paru, certes, assez extraordinaire. C'est peu toutefois en comparaison de ce qui me reste à vous dire. le monde autrement coloré et autrement transparent et opaque, la faculté de voir à travers les nuages, d'apercevoir les étoiles par les nuits les plus couvertes, de discerner à travers une cloison de bois ce qui se passe dans une chambre voisine ou à l'extérieur d'une habitation. Qu'est tout cela auprès de la perception d'un monde vivant, d'un monde d'êtres animés se mouvant à côté et autour de l'homme, sans que l'homme en ait conscience, sans qu'il en soit averti par aucune espèce de contact immédiat. Qu'est tout cela auprès de la révélation qu'il existe sur cette terre une autre faune que notre faune, et une faune sans ressemblance, ni de forme, ni d'organisation, ni de mœurs, ni de mode de connaissance, de naissance et de mort avec la nôtre. Une faune qui vit à côté de la nôtre et à travers la nôtre, influence les éléments qui nous entourent et est influencée, vivifiée par ces éléments sans que nous soupçonnions sa présence. Un faune qui, je l'ai démontré, nous ignore comme nous l'ignorons et à l'insu de laquelle nous évoluons comme elle évolue à l'insu de nous. Un monde vivant, aussi varié que le nôtre, aussi puissant que le nôtre et peut-être davantage en ses effets sur la face de la planète. Un règne, enfin, se mouvant sur les eaux, dans l'atmosphère, sur le sol, modifiant ces eaux, cette atmosphère et ce sol, tout autrement que nous, mais avec une énergie assurément formidable, et par là agissant indirectement sur nous et sur nos destinées, comme nous agissons indirectement sur lui et ses destinées. Voilà pourtant ce que j'ai vu, ce que je vois, seul parmi les hommes et les bêtes, voilà ce que j'étudie ardemment depuis 5 ans, après avoir passé mon enfance et mon adolescence à le constater seulement. À le constater, du plus loin que je me souvienne, j'ai d'instinct subi la séduction de cette création étrangère à la nôtre. D'abord, je la confondis avec les autres choses vivantes. M'apercevant que personne ne se troublait de sa présence, que tous, au contraire, y paraissaient indifférentes, je n'éprouvais guère le besoin de signaler ses particularités. À 6 ans, je connaissais parfaitement sa différence avec les plantes des champs, les bêtes de la basse-cour et de l'étable. Mais je la confondais un peu avec des phénomènes inertes comme les feux de la lumière, la cause des eaux et des images. C'est que ces êtres étaient intangibles. Quand ils m'atteignaient, je ne ressentais aucun effet de leur contact. Leur forme, d'ailleurs très variée, avait cependant cette singularité d'être si mince dans une de leurs 3 dimensions, qu'on pourrait les comparer à des figures dessinées à des surfaces, des lignes géométriques qui se déplaceraient. Ils traversaient tous les corps organiques. En revanche, ils semblaient arrêtés, parfois enchevêtrés, dans des obstacles invisibles. Mais je les décrirai plus tard. Actuellement, je ne veux que les signaler, affirmer leur variété de contours et de lignes, leur quasi-absence d'épaisseur, leur impalpabilité, combinée avec l'autonomie de leur mouvement. Vers ma 8e année, je me rendis parfaitement compte qu'ils étaient distincts des phénomènes atmosphériques autant que des animaux de notre règne. Dans le ravissement que me causa cette découverte, j'essayais de l'exprimer. Jamais je ne pus y parvenir. Outre que ma parole était presque tout à fait incompréhensible, comme je l'ai dit, l'extraordinaire de ma vision la rendait suspecte. Personne ne s'arrêta à démêler mes gestes et mes phrases, pas plus qu'on s'était avisé d'admettre que je visse à travers les cloisons de bois, quoique j'en eusse donné maintes fois des preuves. Il y avait entre moi et les autres une barrière presque insurmontable. Je tombais dans le découragement et la rêverie. Je devins une façon de petit solitaire. Je provoquais du malaise et je ressentais, dans la compagnie des enfants de mon âge, Je n'étais pas exactement une victime, car ma vitesse me mettait hors de la portée des malices enfantines et me donnait le moyen de me venger avec facilité. À la moindre menace, j'étais à distance, je narguais la poursuite. En quelque nombre qu'ils se missent, jamais gamin ne parvint à me cerner, encore moins à me forcer. Il ne fallait même pas essayer de me saisir par ruse. Si faible que je fusse à porter les fardeaux, mon élan était irrésistible, me dégageait aussitôt. Je pouvais revenir à l'improviste, accabler l'adversaire, voir les adversaires par des coups prompts et sûrs. On me laissa donc tranquille. On me tint à la fois pour innocent et un peu sorcier, mais d'une sorcellerie peu redoutable, qu'on méprisait. Je me fis par degrés une vie en dehors, farouche, méditative, non tout à fait dénuée de douceur. La seule tendresse de ma mère m'humanisait. Bien que trop occupée tout le jour, elle ne trouva guère le temps pour les caresses. Je vais essayer de décrire sommairement quelques scènes de ma 10e année afin de concrétiser les explications qui précèdent. C'est au matin. Une grande lueur éclaire la cuisine, lueur pâle jaune pour mes parents et les serviteurs, très diverse pour moi. On sert le premier déjeuner, du pain avec du thé. Mais je ne prends pas de thé. On m'a donné un verre de chidam avec un œuf cru. Ma mère s'occupe tendrement de moi. Mon père me questionne. J'essaie de lui répondre, je ralentis ma parole. Il ne comprend qu'une syllabe de ci, de là. Il hausse les épaules. Il parlera jamais. Ma mère me regarde avec compassion, persuadée que je suis un peu simple. Les domestiques et les servantes n'ont même plus de curiosité pour le petit monstre violet. La frisonne est depuis longtemps retournée dans son pays. Quant à ma sœur, elle a 2 ans. Elle joue auprès de moi et j'ai pour elle une tendresse profonde. Le déjeuner fini, mon père s'en va au champ avec les serviteurs. Ma mère commence à vaquer aux besognes quotidiennes. Je la suis dans la cour. Les bêtes arrivent vers elle. Je les regarde avec intérêt, je les aime. Mais autour, l'autre règne s'agite et me capte davantage. C'est le domaine mystérieux que je suis seul à connaître. Sur la terre brune, voici quelques formes épandues. Elles se meuvent, elles s'arrêtent, elles palpitent au ras du sol. Elles sont de plusieurs espèces, différentes par le contour, par le mouvement, surtout par la disposition, le dessin et les nuances des traits qui les traversent. Ces traits constituent en somme le principal de leur être, et tout enfant, je m'en aperçois très bien. Tandis que la masse de leur forme est terne, grisâtre, les lignes sont presque toujours étincelantes. Elles constituent des réseaux très compliqués. Elles émanent de centre, elles en irradient jusqu'à ce qu'elles se perdent, s'imprécisent. Leurs nuances sont innombrables, leurs courbes infinies. Ces nuances varient pour une même ligne, comme aussi, mais moins, la forme. Dans l'ensemble, l'être est figuré par un contour assez irrégulier, mais très distinct, par des centres d'irradiation, par des lignes multicolores qui s'entrecroisent abondamment. Quand il se meut, les lignes trépident, oscillent, les centres se contractent et se dilatent, tandis que le contour varie peu. Tout cela, je le vois très bien dès lors, quoique je sois incapable de le définir. Un charme adorable me pénètre à contempler les Meudigen. L'un d'eux, colosse long de 10 mètres et presque aussi large, passe lentement à travers la cour et disparaît. Celui-ci, avec quelques bandes larges comme des câbles, des centres grands comme des ailes d'aigle, m'intéresse à l'extrême et m'effraie presque. J'hésite un instant à le suivre, mais d'autres attirent mon attention. Ils sont de toute taille. Quelques-uns ne dépassent pas la longueur de nos plus menus insectes, tandis que j'en ai vu atteindre plus de 30 mètres de longueur. Ils avancent sur le sol même comme attachés aux surfaces solides. Lorsqu'un obstacle matériel, un mur, une maison, se présente, ils le franchissent en se moulant sur sa surface, toujours sans modification importante de leur contour. Mais lorsque l'obstacle est de manière vivante ou ayant vécu, ils passent directement. C'est ainsi que je les ai vus 1000 fois surgir d'un arbre et sous les pieds d'un animal ou d'un homme. Ils passent aussi à travers l'eau, mais demeurent préférablement à la surface. Ces moedigen terrestres ne sont pas les seuls êtres intangibles. Il est une population aérienne d'une merveilleuse splendeur, d'une subtilité, d'une variété, d'un éclat incomparable, à côté de laquelle les plus beaux oiseaux sont ternes, lents et lourds. Ici encore, un contour et des lignes. Mais le fond n'est plus grisâtre, il est étrangement lumineux, il étincelle comme le soleil, et les lignes s'y détachent en nervures vibrantes, les centres palpitent violemment. Les Würen, ainsi que je les nomme, sont d'une forme plus irrégulière que les Moedigen terrestres, et généralement ils se dirigent à l'aide de dispositions rythmiques, d'entrecroisements et décroisements que, dans mon ignorance, je ne puis déterminer et qui confondent mon imagination. Cependant, j'ai pris ma route à travers une prairie récemment fauchée. Le combat de Moedig avec un autre attire mon attention. Ces combats sont fréquents, ils me passionnent violemment. Quelquefois c'est un combat d'ego, le plus souvent l'attaque d'un fort contre un faible. Le faible n'est pas nécessairement le plus petit. Dans le cas présent, le faible, après une courte défense, se met en fuite, vivement poursuivi par son agresseur. Malgré la rapidité de leur course, je les suis, je réussis à ne pas les perdre de vue jusqu'au moment où la lutte reprend. Ils se précipitent l'un vers l'autre, durement, rigidement même, solides l'un pour l'autre. Au choc, leur ligne phosphore se dirige vers le point de contact, leurs centres pâtissent, se rapetissent. D'abord, la lutte se maintient à ses égales, le plus faible déploie la plus intense énergie et réussit même à obtenir une trêve de l'adversaire. Il en profite pour fuir de nouveau, mais il est rapidement atteint, attaqué avec force et enfin saisi, c'est-à-dire maintenu dans une échancrure du contour de l'autre. C'est précisément ce qu'il avait cherché à éviter en répondant au choc du plus fort par des chocs moins énergiques mais plus précipités. Maintenant, je vois toutes ces lignes trépider, ces centres battre désespérément, et à mesure, les lignes pâlissent, s'affinent, les centres s'imprécisent, et après quelques minutes, la liberté lui est rendue. Il s'éloigne avec lenteur, terne, débilité. L'antagonisme, au contraire, étincelle davantage, ses lignes sont plus colorées, ses centres plus nets et plus rapides. Cette lutte m'a profondément remué. J'y rêve, je la compare aux luttes que je vois parfois entre nos bêtes et nos bestioles. Je saisis confusément que les Moedigen, en somme, ne se tuent pas, ou rarement, et que le vainqueur se contente de prendre de la force aux dépens du vaincu. Le matin avance, il est près de 8 heures, l'école de Svardendam va s'ouvrir. Je fais un bond jusqu'à la ferme, je prends mes livres, me voici parmi mes semblables, où nul ne devine les profonds mystères qui palpitent autour de lui, où nul n'a la plus confuse idée de vivants à travers lesquels passe l'humanité entière et qui traverse l'humanité sans aucun indice de cette mutuelle pénétration. Je suis un bien pauvre écolier. Mon écriture n'est qu'un tracé hâtif, informe, illisible. Ma parole demeure incomprise, ma distraction est manifeste. Continuellement, le maître s'écrie « Karel Onderit, avez-vous bien fini de regarder vous voir les bouches ?»« Hélas, mon cher maître, il est vrai que je regarde voler les mouches, mais combien plus encore mon âme accompagne-t-elle les vurons mystérieux qui vont par la salle ? Et quels étranges sentiments obsèdent mon âme enfantine à constater l'aveuglement de tous, et surtout le vôtre, grave pasteur d'intelligence ?» La période la plus pénible de ma vie, ce fut de 12 à 18 ans. D'abord, mes parents essayèrent de m'envoyer au collège. Je n'y connus que misères et déboires. Au prix de difficultés épuisantes, j'arrivais à exprimer d'une manière quasi compréhensible les choses les plus usuelles. Ralentissant à grand effort mes syllabes, je les jetais avec maladresse et avec des accents de sourd. Mais dès qu'il s'agissait de quelque chose de compliqué, ma parole reprenait sa fatale vitesse. Plus personne n'arrivait à me suivre. Je ne pus donc pas faire constater mes progrès oralement. D'autre part, mon écriture était atroce, mes lettres enjambées l'une sur l'autre, et dans mon impatience, j'oubliais des syllabes, des mots. C'était un galimatia monstrueux. D'ailleurs, l'écriture m'était un supplice, peut-être plus intolérable encore que la parole, d'une lourdeur, d'une lenteur asphyxiante. Si parfois, à force de peine et suant à grosses gouttes, j'arrivais à commencer un devoir, bientôt j'étais à bout d'énergie et de patience, je me sentais évanouir. Je préférais alors les remontrances des maîtres, les fureurs de mon père, les punitions, les privations, les mépris à ce travail horrible. Ainsi, j'étais privé, presque totalement, de moyens d'expression, objet de ridicule, déjà par ma maigreur et ma teinte bizarre, par mes yeux étranges, je passais encore pour une manière d'idiot. Il fallut me retirer de l'école, se résigner à faire de moi un rustre. Le jour où mon père décida de renoncer à toute espérance, il me dit avec une douceur inaccoutumée, « Mon pauvre garçon, tu vois, j'ai fait mon devoir, tout mon devoir. Ne me reproche jamais ton sort. » J'étais violemment ému, je pleurais à chaudes larmes. Jamais je ne ressentis avec plus d'amertume mon isolement au milieu des hommes. J'osais embrasser tendrement mon père, je murmurais « Ce n'est pourtant pas vrai, je suis un imbécile. » Et de fait, je me sentais supérieur à ceux qui avaient été mes condisciples. Depuis quelque temps, mon intelligence avait pris un remarquable développement. Je lisais, je comprenais, je devinais, et j'avais d'immenses éléments de méditation, en plus que les autres hommes, dans cet univers visible pour moi seul. Mon père ne démêla pas mes paroles, mais il s'attendrit à ma caresse. « Pauvre garçon, » dit-il. Je le regardais. J'étais dans une détresse affreuse, sachant trop que jamais le vide ne serait comblé entre nous. Ma mère, par intuition d'amour, voyait en ce moment que je n'étais pas inférieur aux autres garçons de mon âge. Elle me contemplait avec tendresse. Elle me disait de naïve douceur venue du tréfonds de l'être. Je n'en étais pas moins condamné à cesser mes études. À cause de ma faible force musculaire, on me confia le soin des ouailles et du bétail. Je m'en acquittais à merveille. Je n'avais pas besoin de chiens pour garder les troupeaux où nul poulain, nul étalon n'était aussi agile que moi. Je vécus donc, de 14 à 17 ans, la vie solitaire des bergers. Elle me convenait mieux que tout autre. Livré à l'observation, à la contemplation, et aussi à quelques lectures, mon cerveau ne cessa de s'accroître. Je comparais sans cesse la double création que j'avais devant les yeux, j'en tirais des idées sur la constitution de l'univers, j'esquissais vaguement des hypothèses et des systèmes. S'il est vrai que mes pensées n'eurent pas à cette époque une parfaite corrélation, ne formèrent pas une synthèse lucide, car c'étaient des pensées d'adolescent, incoordonnées, impatientes, enthousiastes, elles furent cependant originales et fécondes. Que leur valeur dépendît surtout de ma complexion unique, je me garderais bien de le nier, mais elles n'en recevaient pas toute leur force. Sans le moindre orgueil, je crois pouvoir dire qu'elles dépassaient notablement en subtilité comme en logique celles des jeunes gens ordinaires. Seules, elles apportèrent une consolation à ma triste vie de demi-paria, sans compagnon, sans communication réelle avec tous ceux de mon entourage, pas même avec mon adorable mère. À 17 ans, la vie me devint décidément insupportable. Je fus las de rêver, las de végéter dans une île déserte de pensées. Je tombais de langueur et d'ennui. Je demeurais de longues heures immobile, désintéressé du monde entier, inattentif à tout ce qui se passait dans ma famille. Que m'importait de connaître des choses plus merveilleuses que les autres hommes, puisqu'aussi bien ces connaissances devaient mourir avec moi? Que me faisait le mystère des vivants et même la dualité de deux systèmes vitaux se traversant l'un l'autre sans se connaître? Ces choses auraient pu me griser, me remplir d'enthousiasme et d'ardeur, si j'avais, sous quelque forme, pu les enseigner ou les partager. Mais quoi? Vaines et stériles, absurdes et misérables, elles contribuaient plutôt à ma perpétuelle quarantaine psychique. Plusieurs fois, je rêvais d'écrire, de fixer tout de même, au prix d'efforts continus, quelques-unes de mes observations. Mais depuis que j'étais sorti de l'école, j'avais abandonné complètement la plume, et déjà, si mauvais écrivain ailleurs, c'est à peine si je savais tracer, en m'appliquant, les 26 lettres de l'alphabet. Si encore j'avais conçu quelque espérance, peut-être eus-je persisté. Mais qui prendrait au sérieux ces misérables élucubrations? Ou le lecteur qui me croirait fou? Ou le sage qui ne m'éconduirait pas avec dédain ou ironie? À quoi bon, dès lors, m'adonner à cette tâche vaine, à cet irritant supplice, presque semblable à ce que serait, pour un homme ordinaire, l'obligation de graver sa pensée sur des tables de marbre avec un gros ciseau et un marteau de cyclope? Mon écriture à moi aurait dû être sténographique, et encore, d'une sténographie plus rapide que l'usuel. Je n'avais donc point le courage d'écrire, et cependant j'espérais fervemment je ne sais quel inconnu, quelle destinée heureuse et singulière. Il me semblait qu'il devait exister, en tel coin de la terre, des cerveaux impartiaux, lucides, scrutateurs, aptes à m'étudier, à me comprendre, à faire jaillir de moi et à communiquer aux autres mon grand secret. Mais où ces hommes? Quel espoir de les jamais rencontrer! Et je retombais dans une vaste mélancolie, dans les désirs d'immobilité et d'anéantissement. Durant tout un automne, je désespérais de l'univers. Je languissais dans un état végétatif d'où je ne sortais que pour me laisser aller à de longs gémissements, suivis de douloureuses révoltes. Je maigris davantage au point d'en devenir fantastique. Les gens du village m'appelaient ironiquement « den Heiligen Geist », le Saint-Esprit. Ma silhouette était tremblante comme celle des jeunes peupliers, légère comme un reflet, et j'atteignais avec cela la stature des géants. Lentement, un projet se mit à naître. Puisque ma vie était sacrifiée, puisque nul de mes jours n'avait de charme et que tout m'était ténèbres et amertume, pourquoi croupir dans l'inaction? À supposer qu'aucune âme n'existât qui pût répondre à ma mienne, du moins valait-il de faire l'effort pour s'en convaincre. Du moins valait-il de quitter ce morose pays, d'aller trouver dans les grandes villes les savants et les philosophes. N'étais-je pas moi-même un objet de curiosité? Avant d'appeler l'attention sur mes connaissances extra-humaines, ne pouvais-je exciter le désir de faire étudier ma personne? Les seuls aspects physiques de mon être n'étaient-ils pas dignes d'analyse? Et ma vue, et l'extrême vitesse de mes mouvements, et la particularité de ma nutrition? Plus j'y rêvais, plus il me paraissait raisonnable d'espérer, et plus ma résolution croissait. Arriva le jour où elle fut inébranlable, où je m'en ouvris à mes parents. Ni l'un ni l'autre n'y comprit grand-chose, mais tous deux finirent par céder à des instances réitérées. J'obtins de pouvoir me rendre à Amsterdam, quitte à revenir si le sort m'était défavorable. Je partis un matin. De Zwartendam à Amsterdam, il y a une centaine de kilomètres environ. Je franchis facilement cette distance en 2 heures, sans autre aventure que l'extrême surprise des allants et venants à me voir courir d'une telle vitesse et quelques rassemblements aux abords des petites villes et des gros bourgs que je contournais. Pour rectifier ma route, je m'adressais 2 ou 3 fois à de vieilles gens solitaires. Mon instinct d'orientation, qui est excellent, fit le reste. Il était environ 9 heures quand j'atteignis Amsterdam. J'entrai résolument dans la grande ville. Je longeai ces beaux canaux rêveurs où vivent les douces flottilles marchandes. Je n'attirais pas autant l'attention que je l'avais craint. Je marchais vite au milieu de gens occupés, endurant par-ci par-là les colibets de quelques jeunes vagabonds. Je ne me décidai cependant pas à faire halte. Je parcourus un peu en tous sens la ville, lorsqu'enfin je pris la résolution d'entrer dans un cabaret sur un des quais du Horengracht. L'endroit était paisible. Le magnifique canal s'allongeait, plein de vie, entre de fraîches files d'arbres. Et parmi les meudigen que je vis circuler sur ses rives, il me sembla en apercevoir d'espèces nouvelles. Après quelque indécision, je franchis le seuil du cabaret et, m'adressant au patron aussi lentement qu'il me fut possible, je le priai de vouloir bien m'indiquer un hôpital. L'hôte me regarda avec stupeur, défiance et curiosité, ôta sa grosse pipe de sa bouche et la remit à plusieurs reprises, puis finit par dire « Oh, vous êtes sans doute des colonies !» Comme il était parfaitement inutile de le contrarier, je lui répondis « En effet !» Il parut enchanté de sa perspicacité. Il me fit une nouvelle question. « Peut-être que vous venez de cette partie de Bordeaux où on n'a jamais pu entrer. » « Oui, c'est cela même. » J'avais parlé trop vite. Il écarquilla les yeux. « C'est cela même, » répétai-je plus lentement. L'autre sourit avec satisfaction. « Vous avez de la peine à parler néerlandais, dites alors. C'est à l'hôpital que vous voulez. » « Sans doute que vous êtes malade. »«
Oui. »
Des consommateurs s'étaient rapprochés. Le bruit courait déjà que j'étais un anthropophage de Bornéo. Néanmoins, on me regardait avec beaucoup plus de curiosité que d'antipathie. Des gens accouraient de la rue. Je devins nerveux, inquiet. Je fis néanmoins que bonne contenance et je repris en tout sort. Oui, je suis très malade. C'est comme les sages de ce pays-là, fit alors un trop gros homme avec bienveillance. La Néerlande les tue.
Quelle drôle de peau, ajouta un autre.
Et comment voit-il?
Demanda un troisième en montrant mes yeux. Le cercle se rapprocha, m'enveloppa de 100 regards curieux, et toujours des nouveaux venus pénétraient dans la salle.
« Comme il est long !»«
Il est vrai que je dépassais les plus grands de tous d'athlètes. Et maigre.
Ça n'a pas l'air de beaucoup le nez nourrir, l'anthropophagie.
Toutes les voix n'étaient pas malveillantes. Quelques individus sympathiques me protégeaient.
Mais ne le pressez pas comme ça, puisqu'il est malade. Alors, ami, du courage, dit le gros homme en remarquant ma nervosité. Je vais vous conduire moi-même à l'hôpital.
Il me prit par le bras. Il se mit en devoir de fendre la foule et jeta ses mots. Et place pour un malade! Les foules hollandaises ne sont pas très farouches. On nous laissa passer, mais on nous accompagna. Nous longeâmes le canal, suivi d'une multitude compacte, et des gens criaient « C'est un cannibale de Bornéo !» Enfin, nous atteignîmes un hôpital. C'était l'heure de la visite. On me mena devant un interne, jeune homme à lunettes bleues, qui m'accueillit avec maussaderie. Mon compagnon lui dit « C'est un sauvage des colonies !»«
Comment un sauvage ?» s'écria l'autre.
Il ôta ses lunettes pour me regarder. La surprise le tint un moment immobile. Il me demanda brusquement « Est-ce que vous voyez ?»«
Oh oui, je vois très bien. »
J'avais parlé trop vite.
« C'est son accent, dit le gros homme avec fierté. Répétez, ami !»
Je répétais, je me fis comprendre.
« Ce ne sont pas là des yeux humains ?» murmura l'étudiant. « Et le teint, mais est-ce le teint de votre race ?»
Alors je dis, avec un terrible effort de ralentissement, « Je suis venu pour me faire voir par un savant. »«
Ah, vous n'êtes donc pas malade ?»«
Non. »«
Et vous êtes de Bornéo ?»«
Non. »«
Ben, d'où êtes-vous alors ?»«
De Zwartendam, près de Duisbourg. »«
Alors pourquoi votre compagnon prétend-il que vous êtes de Bornéo ?»«
N'ai pas voulu le contredire. »
Et vous voulez voir un savant?
Oui.
Et pourquoi?
Pour être étudié?
Ah, pour gagner de l'argent?
Non, pour rien.
Vous n'êtes pas un pauvre, un mendiant?
Non.
Mais qu'est-ce qui vous pousse à vouloir être étudié?
Mon organisation. Mais j'avais encore, malgré mes efforts, parlé trop vite. Il fallut me répéter.
« Êtes-vous sûr que vous me voyez ?» demanda-t-il en me regardant fixement.
« Vos yeux sont comme de la corne. »«
Je vois très bien. »
Et allant de droite et de gauche, je pris vivement des objets, je les déposais, je les jetais en l'air pour les rattraper.
« C'est extraordinaire !» reprit le jeune homme.
Et sa voix radoucie, presque amicale, me pénétra d'espérance.
« Écoutez, dit-il enfin...
« Je crois bien que le docteur Van der Hoevel pourra s'intéresser à votre cas. Je vais le faire prévenir. Vous attendrez dans la chambre voisine. Et à propos, j'oubliais, vous n'êtes pas malade en somme. »«
Oh non, pas du tout. »«
Bon, tenez, entrez là, le docteur ne tardera guère. » Je me trouvais assis parmi des monstres conservés dans l'alcool. Fœtus, enfant à forme bestiale, batracien colosse, saurien vaguement anthropomorphe. C'est bien là, pensais-je, ma salle d'attente. Ne suis-je pas candidat à l'un de ces sépulcres à l'eau de vie ?